sur le programme Astrid d'aujourd'hui, mais je vais aller assez vite puisque cet après-midi, en début d'après-midi, Bernard Boulis du CEA va aller plus dans les détails sur ces différentes questions. Alors, si on travaille à la demande du gouvernement sur le programme Astrid aujourd'hui, c'est dans une logique de donner une perspective de durabilité au nucléaire. Hein? Alors, qu'est-ce que cela signifie, la durabilité du nucléaire? Alors, il ne faut pas prendre les dates, elles sont vraiment, c'est marqué, hein, c'est indicatif. Aujourd'hui, on a un parc de REP avec certains un monorecyclage du plutonium, d'autres uniquement du combustible UOX. Et la première question, c'est déjà de mieux valoriser les matières à ce jour, les matières à la fois uranium et puis plutonium. Donc, le premier besoin, c'est de passer vers le multi-recyclage du plutonium. Donc, pour cela, on a un retour d'expérience avec Phénix, Superphénix et puis Rhapsody aussi en France. Et pour aller à une échelle supplémentaire, donc, on a besoin de continuer cette rupture sur le réacteur et c'est l'objet du projet Astrid sur lequel je vais revenir après. Mais cette rupture n'est pas suffisante, la rupture au niveau du réacteur, même s'il y a une certaine continuité. Il y a aussi à poursuivre les efforts sur le cycle du combustible pour amener finalement une rupture dans la façon dont on gère les matières aujourd'hui. Et donc passer de ce que l'on fait en termes de recherche ou de développement vers le caractère industriel, vers le multi-recyclage du plutonium et l'incinération des actifs mineurs, à la fin d'avoir différentes motivations qui sont rappelées ici. Au niveau du réacteur, c'est l'optimisation de l'utilisation des ressources, maintenir un certain niveau d'indépendance énergétique, tout en faisant attention à la partie économique. Et ça fait partie des sujets qu'on discute aussi avec l'ADGEC sur les modèles économiques associés. Et puis ensuite, l'étape suivante que l'on développe en parallèle, c'est la réduction de la quantité de déchets, l'optimisation des stockages et apporter des compléments aussi vis-à-vis de l'acceptabilité du nucléaire dans le public, qui est un point important. Donc, le programme de quatrième génération, c'est un volet réacteur plus le cycle, et c'est le cycle, et en particulier en France, qui pousse en tout cas dans ce domaine. Alors, depuis 2001, il y a le forum quatrième génération qui essaye d'optimiser autant que possible les efforts de recherche dans le monde. Alors, je parle bien de recherche, hein, on ne parle pas de développement en commun de réacteurs, hein, puisqu'il y a quand même certaines difficultés parfois, entre autres liées à propriété intellectuelle, mais en tous les cas, on peut partager tout un ensemble d'éléments de la recherche et de pousser, en tous les cas, six filières aujourd'hui. Donc, alors, je ne vais pas m'attarder sur les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium dans cette planche. Les autres filières, donc, il y en a deux qui sont associées à des cycles du combustible ouvert, donc les réacteurs à très haute température avec un cryoporteur gaz et puis les réacteurs au supercritique. Donc, il y a eu dans le passé un effort en particulier, lui, piloté par Areva avec entre autres le projet Antares. Aujourd'hui, c'est un peu en stand-by puisqu'on est arrivé à un certain niveau de développement. La question d'aller plus loin nécessite de trouver un client et aujourd'hui, bon, bah, il y a des discussions dans certains pays en particulier. L'intérêt, ce n'est pas cette fois-ci la durabilité des matières surtout, c'est surtout la haute température et d'autres utilisations de l'énergie nucléaire comme la valorisation de la chaleur ou les questions de production d'hydrogène à un moment aussi sur lequel on a travaillé. Puisque c'est un vecteur, voilà. Ensuite, les quatre autres filières, réacteurs à sel fondu, réacteurs refroidis au plomb, réacteurs refroidis au gaz et réacteurs au sodium, eux sont associés avec un cycle fermé. Donc, ils peuvent répondre à la question de la durabilité des matières. Donc, en France, comme tout le monde le sait, on a un effort particulier sur les réacteurs à sel fondu parce qu'on a une demande de préparer des réacteurs, je dirais, potentiellement déployables d'un point de vue industriel au début de la deuxième moitié du siècle. Et on va y revenir, alors que sur les trois autres réacteurs en spectre rapide, il n'y a pas eu à ce jour de réalisation avec ces caloporteurs. Donc, cette analyse a été partagée à différents niveaux. Là, je mets juste l'extrait, disons, de l'analyse faite par le groupe permanent de sûreté et puis l'IRSN dans des éléments qui sont publiés. Par rapport à la demande d'un système déployable à la fin de la première moitié du siècle ou début de la deuxième moitié du siècle, seuls les réacteurs de type SFR présentent un niveau de maturité suffisant. Donc c'est pour cela qu'on met l'accent principalement dessus. Si on se donne une option de déploiement beaucoup plus lointaine, si on met les moyens pour la R&D, des éléments différents pourraient être apportés, en tout cas dans l'analyse. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui le CEA donc, mène ses efforts essentiellement sur le développement des RNRNA. On mène une veille hein, dans les autres systèmes. Hein, en particulier, on contribue au Forum Génération 4 à peu près. Ben, on contribue à tous les systèmes. Aujourd'hui, on participe à un certain nombre de projets européens. Voilà, et on est dans une activité, on va dire, de veille là-dessus, aujourd'hui. Alors, je pense que beaucoup de gens savent, mais juste... ici, c'est l'architecture de type intégré. Donc, c'est ce que l'on a eu sur Phoenix et puis Super Phoenix. Hein, c'est l'architecture utilisée aussi en Russie, en Inde. Le petit CEFR en Chine, c'est là-dessus que travaillent aussi les Coréens. Le Japon a fait, pour le moment, un choix différent. Dans la cuve, on a une grande cuve dans laquelle on a tout le circuit primaire, en fait, à part quelques petites dérivations. On a le cœur alimenté par des pompes, donc on est obligé de séparer la partie chaude de la partie froide, donc c'est ce qu'on appelle les redans, les cuves internes, et un échangeur intermédiaire d'un circuit sodium vers le sodium. À cause de la réactivité entre le sodium et l'eau, on va éviter de mettre dans la cuve de l'eau. La réaction étant exothermique, elle peut conduire des mouvements sur le cœur, et le cœur est d'un cœur rapide, est assez, disons, est très réactif, en fait, tout naturellement. Voilà. Donc, un circuit sodium qui va vers un générateur de vapeur qui alimente une turbine. C'est ça, en gros, le principe. Par rapport à un REP, on a donc un circuit intermédiaire. Dans quelques petits rappels sur, quand même, des avantages du réacteur à neutrons rapides refroidis au sodium, parce qu'on a toujours l'habitude d'entendre toutes les critiques, évidemment, sur ce type de réacteur. Mais il y a quand même quelques avantages qui ont montré, par le retour d'expérience, en tous les cas, sa pertinence. Donc, ce sont les avantages là de l'architecture intégrée, hein, parce que ça peut être un peu modifié parfois quand on passe dans une architecture à boucle. Le circuit primaire n'est pas pressurisé, il y a juste la pression hydrostatique naturelle. On a une marge à l'ébullition assez grande. Là, c'est du combustible oxyde, hein, typiquement 300 Kelvin, 300 degrés. On a une très grande quantité de sodium qui conduit à avoir une très grande inertie thermique et donc qui nous donne des marges. Des délais de grâce en tous les cas assez importants et, en cas de perte de refroidissement. On a fait des expériences sur Phoenix, Super Phoenix. La mise en route de la convection naturelle au circuit primaire se passe très bien et on a pu le refaire même à Phoenix à la fin. On peut concevoir, et ça a été testé, des systèmes d'évacuation de la puissance résiduelle actif, passif, et donc permettre en tous les cas une architecture diversifiée comme on a pu l'expérimenter dans les projets passés. On va voir qu'on va aller encore plus loin sur ce sujet-là. Et puis, on a une diversité de la source froide, eau et puis air. Un autre intérêt, cette fois-ci, d'exploitation, c'est qu'on a une dose collective, et ça, c'est vraiment lié à l'architecture intégrée, qui est très basse comparée au REP. Hein, on a un facteur 10 à peu près hein, d'écart, en plus. Alors, ASTRID, Advanced Sodium Technological Reactor, For Industrial Demonstration. Donc, on le qualifie d'un démonstrateur technologique. Ce n'est pas une tête de série d'une filière commerciale. C'est un réacteur, donc je vais y revenir après, à peu près vous présenter quelques-unes de ses caractéristiques. On part du retour d'expérience, de Rhapsody, Phoenix, Super Phoenix, mais aussi de tous les événements que l'on connaît sur les réacteurs similaires dans le monde, mais aussi de ce qui s'est produit sur d'autres types de réacteurs pour l'intégrer dans l'architecture et l'architecture de sûreté, donc entre autres le post-Fukushima. Et puis, sur cette base de retour d'expérience, on a identifié un certain nombre de faiblesses et on a cherché des innovations pour répondre à ces faiblesses-là. Donc, je vais en lister quelques-unes. Alors, en particulier, il y a deux domaines dans lesquels on souhaite faire des progrès. Bon, quand on parle de génération de réacteurs, si on parle de Phoenix, Super Phoenix, on était à génération 2, et puis là on dit qu'on veut passer à génération 4. Donc il y a un saut à faire en tous les cas en termes de sûreté. Un autre axe très important aussi dans la conception, c'est l'opérabilité. Je dirais que si on veut donner confiance à un utilities comme EDF, mais aussi c'est un challenge pour tous les exploitants nucléaires dans le monde, c'est qu'il faut augmenter significativement la confiance dans le taux de disponibilité de ce type de réacteur. Super Phoenix, bon, voilà, hein, il y a eu différents aléas administratifs et techniques qui font que le taux de disponibilité n'est pas très bon. Phoenix a eu un très bon taux de disponibilité au début, puis après ça s'est dégradé, mais on était aussi le début de l'histoire des réacteurs trop rapides. Voilà. BN600 est un réacteur qui a d'excellentes performances. Bon, On sait aussi que ce n'est pas les mêmes niveaux de surveillance en exploitation que l'on a nous. Donc il faut trouver le bon équilibre dans le montage et l'architecture. Donc voilà. Donc en tous les cas, ce sont deux gros challenges. La sûreté et puis augmenter l'opérabilité. Ce sont les deux énormes challenges. Quand on parle du programme Astrid, ce n'est pas que le réacteur aussi. Astrid, comme c'est un démonstrateur technologique qui est là pour préparer derrière un déploiement commercial, ben en fait, Astrid est une étape. Il est là pour tester, qualifier des options de sûreté innovantes en vue de la filière. Il va être là aussi pour qualifier les combustibles pour la filière. Aujourd'hui, quand on discute avec EDF sur les performances attendues du réacteur commercial, bon, ben, il va falloir monter les performances en termes de burn-up, etc. Voilà. Il y a aussi le nucléaire, bon, c'est quand même un domaine où l'État a un rôle important. Il n'y a pas que le utilities qui définit le rôle du nucléaire. Et en tous les cas, nous, on travaille dans le cadre de lois. Hein, ce sont des lois qui encadrent ce que l'on fait sur Astrid. Hein, c'est pour ça que c'est le CEA qui pilote ce programme. Donc, il y a des questionnements sur l'évolution, et Bernard y reviendra cet après-midi, mais sur l'évolution, donc, différents scénarios possibles. Et on peut être amené à avoir dans le parc ben, des réacteurs qui pourraient avoir un rôle de transmutation, réduire la quantité de déchets, des réacteurs qui peuvent être là pour mieux contrôler finalement le stock de plutonium, etc. Donc des combustibles adaptés. Donc il faudra les qualifier, ces combustibles, et ça fait partie du cahier des charges donc d'Astrid, de pouvoir qualifier des combustibles adaptés. De même, le réacteur commercial a un objectif de durée de vie de 60 ans. 60 ans, aujourd'hui, sur la base de retour d'expérience de Phoenix, Super Phoenix, et puis même si vous verrez que le planning a un petit peu évolué, et qu'on retarde un petit peu de certaines choses, la R&D expérimentale pour justifier 60 ans, elle est très longue. Donc, c'est Astrid qui va permettre de finaliser la démonstration. On va déposer un dossier avec un objectif de durée de vie de 60 ans, on va apporter la démonstration pour 40 ans, et on va profiter des visites décennales pour compléter le dossier. Voilà. Confirmer les performances des innovations, en vue d'optimiser la conception des réacteurs commerciaux au plan technico-économique. Aujourd'hui, on se donne un objectif très important sur Astrid. C'est l'élimination en pratique de la perte sur une longue durée de la fonction, je parle bien de la fonction, pas de système, de la fonction d'évacuation de la puissance résiduelle. Cet objectif donc, nous conduit aujourd'hui, à cause d'incertitudes sur les performances de certains échangeurs passifs, de certains composants, nous conduit à envisager d'avoir 5 systèmes d'évacuation de la puissance résiduelle dans la cuve principale. 5, ça fait beaucoup quand même. Hein. Bon, mais simplement, c'est lié aux incertitudes sur la performance de certains composants. Et ça, bah, avec le programme Astrid, on doit être capable d'améliorer ça. Et clairement, le réacteur commercial, il n'y en aura pas 5. Hein. Voilà, il y en aura moins. Voilà, on a prévu de mettre un système autour de la cuve de sécurité aussi en redondance pour les situations ultimes en cas d'accident grave, puisque nous devons faire l'hypothèse que même si la probabilité est très, très faible ou que la vraisemblance est faible, nous devons dans tous les cas à la conception, et ça c'est vrai quelle que soit la technologie de réacteur, faire l'hypothèse et si ça se produit, qu'est-ce que l'on met, qu'est-ce qui se passe, car l'objectif c'est pas de déplacement des populations autour du site. Voilà, pas de déplacement. On peut accepter le préfet, c'est le préfet qui décide, c'est pas l'exploitant, hein, là. C'est le préfet qui décide, il peut décider de faire un déplacement, mais ce déplacement, il sera temporaire, c'est quelques jours. C'est pas Fukushima, ça va être des années. C'est quelques jours, là, qu'on considère. Et c'est en termes de gestion du public, hein. En fait, c'est ça, l'objectif que l'on a quasiment déjà sur le PR, là-dessus. Hein. Donc, Astrid, par son retour d'expérience, va, en tout cas, nous permettre de faire une optimisation des réacteurs commerciaux au plan technico-économique. C'est pour ça que c'est un démonstrateur technologique, ce n'est pas une tête de série. Et puis, bah on en parle tous, tout le temps, et puis alors, la presse, là, bon, il faut arriver à donner confiance dans les coûts de la filière. Voilà. Donc Astrid, c'est un démonstrateur technologique qui va coûter très cher, ça on le sait, mais il est là pour donner une confiance dans l'évaluation des coûts de la filière. Ça fait partie de nos objectifs aussi, coûts de construction et coûts d'exploitation. Voilà. Alors, quelques innovations. Alors, la réactivité des cœurs à neutrons rapides est bien connue. Dans les cœurs, et ça c'est vrai quels que soient les réacteurs rapides, hein, je dirais, la dégradation en général, pour les cœurs qu'on avait fait dans le passé avec des coefficients de vidange de l'ordre de quelques dollars, hein, 5 dollars par exemple, en tous les cas ça veut dire qu'en cas de dégradation, alors ça va dépendre si on est en perte de refroidissement ou en perte en top, puisqu'il faut prendre en compte toutes les familles, quelle que soit leur vraisemblance, on a des excursions neutroniques au début qui conduisent à la dégradation du combustible. On a réussi à proposer un cœur qui on considère à sûreté améliorée, un cœur à faible vidange. Hein, on est en best estimate, en valeur best estimate négative, avec les incertitudes, on passe positif. Mais qui conduit en fait à éviter le pic neutronique initial. Et dans ce cas-là, de rentrer dans une dégradation de type thermique du combustible, comme dans les REP. Alors ce que je vous dis là, bon, c'est un cœur qui est quand même théorique, on fait plein d'études, il y a la qualification quand même qui est à finaliser. Il y en a un qui est un expert qui n'est pas loin de là. Donc aujourd'hui, en tous les cas, on a de plus en plus confiance, mais il y a des essais à mener pour confirmer tout cela encore. Le deuxième sujet, c'est la réactivité entre le sodium et l'eau. Tout le monde a vu sur YouTube les petits films. Donc, des réactions sodium-eau au niveau du générateur de vapeur, à part Super Phoenix, tous les réacteurs qui ont fonctionné une certaine durée en ont connu. Sur Phoenix, il y en a eu 5, on a su les gérer. C'est un problème surtout de disponibilité pour les exploitants, en tous les cas, qui ont connu ça. Mais c'est une problématique, en tous les cas, pour le décideur, pour l'autorité de sûreté. Donc, on est en train de développer un système de conversion d'énergie avec un gaz. Donc, on remplace l'eau par un gaz. Donc, on a une turbine en gaz, cycle de Brayton. On est en train de travailler dessus. Et en tous les cas, on élimine le risque de réaction sodium-eau au niveau du générateur de vapeur, où là, la frontière entre les deux est fine. Voilà, donc ça, c'est un gros programme. Et on a des premières maquettes, je crois que j'ai une image à la fin. Le troisième enjeu aussi fort, bon, ça c'est la célèbre lettre de M. Lavry, c'est améliorer l'inspectabilité en service. On est en sodium, c'est opaque. Donc on a fait énormément de choses, des premières même mondiales, hein, je dirais, sur Phoenix. On a fait des choses qui n'étaient pas prévues à la conception. Mais là, dès la conception, nous intégrons ces contraintes d'inspectabilité. Donc on a prévu sur la dalle des accès spécifiques pour pouvoir amener des porteurs robotiques qui vont apporter. Donc il faut développer ces porteurs pour qu'ils puissent fonctionner en sodium à 200 degrés à peu près, hein, puisque là c'est de l'inspection à l'arrêt, ou 180 degrés. Amener des capteurs au plus près des soudures qui participent à la démonstration de sûreté. Et donc, on veut être capable de pouvoir apporter des capteurs. C'est à la fois dans une optique de préservation de l'investissement, mais aussi donc de la sûreté. Donc ça, c'est un axe important de développement avec un certain nombre de partenaires. Les accidents graves. Donc les accidents graves, donc on les prend en compte à la conception. On a étudié différents types de récupérateurs. On a finalement fait le choix du récupérateur interne à la cuve, in fine. On a une structure quand même hyperstatique et mécanique assez épaisse et importante entre la zone du cœur et puis le récupérateur. Donc, dans la démonstration de sûreté, il faut qu'on soit robuste et qu'on puisse démontrer que le corium qui est en haut, vu la quantité de plutonium, si on laisse le bain tel quel, on a des risques de réactivité. Il faut qu'il puisse évacuer vers ce récupérateur qui peut accueillir 100% du corium dans un état neutronique, disons, maîtrisé. Et après, par convection naturelle, on peut aussi, ça fait partie de son cahier des charges, refroidir. Donc on travaille sur la conception de chemins de transfert de corium. Alors il y a plein de questions technologiques, puisqu'ici on est il y a 150 degrés d'écart de température, on n'a pas les mêmes équilibres de pression. Voilà. Donc on travaille en tous les cas sur cet élément-là. Et puis le dernier volet, on en a parlé tout à l'heure, le confinement. Le confinement, de renforcer le confinement, et en particulier un axe sur lequel on travaille, c'est qu'il y a toujours des lignes de bypass au travers du confinement, puisqu'il faut aller à la turbine, hein, il y a toujours des lignes de bypass. Donc on travaille sur des vannes d'isolation que l'on mettrait sur les tuyauteries secondaires. Voilà, ça qui n'existe pas dans les réacteurs à neutrons rapides dans le monde à ce jour. Hein. Voilà. Donc ce sont quelques exemples des innovations sur lesquelles nous travaillons. Allez, je vais. Bon, Astrid, finalement, C'est pour ça que les innovations, à part celle-ci qui est assez facile à voir, celle-ci, bah, il faut aller voir les plans de détail. Une vanne, c'est facile à voir. Un cœur, c'est plus difficile à visualiser. Donc, bah oui, Astrid, à première vue, il ressemble quand même assez à des choses que ceux qui ont travaillé dans le réacteur au sodium ont vu. On a un réacteur intégré, on a le cœur, un redent qui sépare le collecteur froid et le collecteur chaud. On a une pompe qui va envoyer le sodium froid dans le cœur qui s'échauffe de 150 degrés, le bouchon couvercle le cœur. Et ici, l'échangeur intermédiaire qui permet de refroidir. Le récupérateur ici, donc on voit qu'il y a tout cet espace à traverser pour que le corium vienne de cette zone ici. Hein. Ici, on a les protections neutroniques. Viennent ici. Voilà. On a aujourd'hui 5 systèmes d'évacuation de la puissance résiduelle. 3 passifs, 2 actifs. Et qui sont diversifiés de technologies. Voilà. On a des casematages prévus aussi au niveau de certains de ces systèmes. Tout simplement en cas de feu sodium sur la dalle. Puisque si on prend en compte certains types d'accidents graves, on pourrait avoir un risque de feu de sodium sur la dalle. Il faut maintenir certains circuits d'évacuation de puissance résiduelle opérationnels. On les casemate, on les protège des risques de feu. Voilà. Voilà une vue de haut. Et ici, c'est une machine de transfert de combustible avec la zone de transfert. Mais ça, c'est en cours d'évolution. Voilà. En termes de confinement, donc ici, nous avons la cuve principale. Ici, nous avons le grenier et une table polaire. Donc, on a fait évoluer, en fait, les dessins de FR pour avoir un truc étagé, mais qui garantisse, en tous les cas, au plus près de la dalle, donc un endroit inaccessible, finalement, d'exploitation, mais en tous les cas, donc, la quantité d'oxygène pour limiter tout risque de feu sodium. On n'aura pas, c'est pas inerté, on n'est pas dans une logique d'inertage complet, mais en tous les cas, très peu d'oxygène et donc très peu en tout cas, en cas de feu de sodium au niveau de la dalle, un feu de sodium très limité et pas donc de montée en pression de ces structures-là. On a donc des challenges sur l'enceinte qui sont complètement différents en termes de pression par rapport à un REP. Ce qui nous a permis de faire évoluer aussi l'architecture du bâtiment réacteur de façon rectangulaire. Alors ça, pour ceux qui ont visité Superphénix, quand on lève la tête dans le dôme, on voit le pont circulaire. Et ce pont circulaire fait que, en dehors du coup, en fait, il est toujours au-dessus. En cas de chute de charge, on a quand même le pont qui a toujours une partie qui est au-dessus de la dalle. Là, on peut aller en position parking quand on n'en a pas besoin, loin de la dalle. Voilà. Ça, c'est quand même aussi une évolution subtile, mais finalement très intéressante derrière. Bon, comme dans Phoenix et Super Phoenix, pendant l'exploitation, on peut aller sur la partie table polaire sans problème. Ça, c'est pas interdit. Voilà. Bon, ici, c'est le schéma parce qu'on a deux alternatives. Hein. On travaille avec un schéma système de conversion d'énergie aux vapeurs et on travaille avec une autre option. Donc, ça change quand même le design des circuits secondaires avec un système de conversion d'énergie au gaz. Ça, c'est l'option avec boucle secondaire et qui va vers des GV. Voilà. On est sur des patins antisismiques aussi, étant donné qu'on a des grandes structures élancées, il faut amortir en cas de séisme les transferts. Voilà. À quoi ? Ici, donc, une image du site avec aéro-réfrigérant, la vue globale, bâtiment combustible et manutention. Et ici, c'est la turbine en eau vapeur. Si on est en gaz, on a 2 turbines aujourd'hui. Dès la conception, on a pris en compte aussi, avec certains de nos partenaires, la prise en compte de la constructibilité. Donc on travaille sur l'hypothèse du site de Marcoule et la constructibilité qui est un challenge pour la maîtrise des coûts. Et en fait, on voit que ça a des impacts sur l'aménagement. Voilà, on voit qu'à un moment, on se retrouve avec tout ça comme grue. Il y a une cohabitation assez importante. Voilà, donc ça, c'est pour illustrer. On ne travaille pas tout seul. Le CEA a la responsabilité du programme. Mais on travaille avec 14 partenaires industriels, plus d'autres auxquels après je vais revenir. Donc, le CEA a la responsabilité. On est assisté d'EDF, en particulier d'EDF Septaine, sur le pilotage opérationnel. Et puis, nous avons alloti avec des partenaires. Quand je dis partenaires, c'est qu'ils mettent des moyens financiers en propre dessus. Hein. Voilà. Donc, on a des partenariats. Le CEA a gardé l'ingénierie du cœur. On a confié l'ingénierie à Areva NP, mais aujourd'hui, on a un partenariat depuis 2014 avec le Japon, le gouvernement japonais, qui finance JAEA et MHI sur une partie de l'îlot nucléaire. Et nous avons SEIV du groupe Alcens, qui est en charge du design de la suite des examens. Système de conversion d'énergie, c'est Alstom, qui a été intégré la partie dans le GE. Bouygues sur génie civil, et puis Nox qui a racheté Jacobs France récemment, qui est notre partenaire sur l'aménagement et donc les questions de constructibilité, entre autres. Là, ce sont les lots, et on a des composants innovants dedans. Donc il faut regarder la maturité de ces composants innovants, et donc nous avons développé un autre niveau de partenaires qui sont ici, qui eux travaillent que sur des composants spécifiques. Voilà, donc on a Honnête Technologies sur de la robotique, sur certains mécanismes de barre innovants, Technetics sur des systèmes d'étanchéité, CNIM, c'est sur la fabricabilité de certains gros composants mécaniques, dont la dalle, le sommier, Velan sur les vannes d'isolation, Toshiba sur les pompes électromagnétiques. On prévoit de remplacer la pompe mécanique du circuit secondaire par une pompe électromagnétique, et Rolls-Royce sur l'échangeur sodium gaz. Et on a une exigence sur la disponibilité. Et donc on a un partenariat avec Airbus Safran Launcher, qui, eux, ont développé des méthodologies spécifiques pour faire certains satellites ou certains objets qui ne fonctionneront qu'une seule fois et qui doivent donc avoir un niveau de disponibilité et d'opérabilité extrême. Il y a les satellites, mais il n'y a pas que ça. Et donc, on travaille avec eux sur l'utilisation de ces méthodologies-là, sur des points clés de la disponibilité, en particulier la chaîne de manutention sur laquelle la disponibilité va être fortement liée. Chacun de ces partenaires industriels fournit un besoin de R&D qui est consolidé ici. Ici, on fait le remontage 3D, hein, le remontage des performances aussi dans cette cellule du CEA. Et après, alloue la R&D soit au CEA, soit chez EDF R&D, soit chez les Japonais ou d'autres partenaires. Donc en fait, on a, au terme de partenariat, trois piliers. Les piliers industriels, on a un volet de R&D, des accords bilatéraux bien spécifiques, parce qu'il y a des questions de propriété intellectuelle, d'échange d'informations, avec certains partenaires sur la R&D. Et puis le troisième volet, c'est la coopération générique, il n'y a pas d'enjeu de R&D. Et là, on va profiter des projets européens, on va profiter des projets du Forum Génération 4, ou des accords bilatéraux dans lesquels on peut faire de la R&D plus amont, mais qui est très profitable pour Astrid, dans la validation des codes par exemple, ou entre autres. Voilà. On a donc développé Astrid sur ces trois piliers. Et en particulier dans le pilier ici, on a tous les partenaires aujourd'hui, on a des accords de collaboration plus ou moins actifs en réalité, mais avec tous les pays qui s'intéressent aux réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Donc les Russes, évidemment, et en plus les Russes sont les seuls aujourd'hui qui ont des moyens d'irradiation disponibles à flux rapide en sodium. C'est quand même le cas, oui. La Chine, CEFR, on les aide un petit peu et puis à développer. Le Japon, ben, ils sont partenaires d'Astrid aujourd'hui. La Corée, on a des contacts, c'est plus ou moins. Et puis l'Inde, on a énormément d'actions de R&D. Que de la R&D liée à la sûreté, puisque pour des contrats, on ne peut pas travailler avec qui on travaille. Les Américains, avec les USA, on a pas mal de contacts, mais pas encore de choses bien concrètes. Ce que l'on constate, c'est que, ça a été dit, hein, c'est l'Asie. C'est l'Asie aujourd'hui, le développement du nucléaire, c'est l'Asie qui travaille sur le sujet et on travaille énormément avec eux. Le planning, c'est le dernier point important. On a aujourd'hui une convention entre le CEA et l'État qui nous donne un budget spécifique sur Astrid qui se termine à fin 2019, à la fin des études dites avant projet détaillé au niveau d'un basic design. On ne va pas jusqu'au niveau complet de la phase de définition. Ça dépend des référentiels. On a aujourd'hui fait un gros travail ces derniers mois avec EDF et Areva pour consolider, disons, la roadmap d'Astrid et qui intègre aussi, parce qu'il y a quand même un point important, et c'est le nerf de la guerre, les contraintes financières. Contraintes financières de l'État, contraintes financières chez EDF, qui conduit, et on va y revenir après, à l'introduction d'une phase de consolidation, et qui nous permet en tout cas de jeter les bases de ce que pourrait être la société Astrid. Aujourd'hui, on est sur un fonctionnement de pilotage par le CEA, mais le CEA ne sera pas le propriétaire exploitant d'Astrid. Le CEA, l'État français, ne va pas financer à 100% Astrid. Donc on est en train de travailler avec EDF, Areva et les tutelles sur à quoi peut ressembler la société qui sera en charge de cette phase verte. C'est-à-dire, phase de développement, c'est les études détaillées, le processus réglementaire, puis la construction et les tests. Cette phase de consolidation, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura la transition entre l'organisation actuelle pilotée par le CEA et cette société. Bon, et je l'ai mise verte parce que la convention ici s'arrête à fin 2019. Ça, et c'est cette société Astrid qui sera vraiment responsable du planning, des chroniques de dépenses, tout ça. Donc on a des hypothèses, mais ces hypothèses sont en discussion avec nos partenaires. Cette phase de consolidation, elle a plusieurs objectifs. Et pas que la prise en compte de contraintes financières. Le retour d'expérience de projets nucléaires en France aujourd'hui et des dérives dans le temps de chantier montre que, et donc des surcoûts gigantesques, parce que dès qu'on commence les chantiers, qu'on a des délais, les surcoûts sont de 100 communes mesures avec les surcoûts quand on est dans les études de conception. Un élément, c'est qu'il faut bien préparer le tissu industriel. Et sur les réacteurs au sodium, la préparation du tissu industriel, eh ben, la dernière fois, c'était Superphénix en France. Hein. Donc, il y a un gros travail à faire, encore plus important que sur les REP. Ensuite, on a des innovations. Ces innovations, on est quand même sur un programme qui va coûter quelques milliards d'euros. Donc, en fait, avant d'investir, il faut s'assurer des performances de certaines innovations. Et pour cela, on a lancé un programme d'investissement de certaines installations expérimentales ou de rénovation qui, hélas, malgré nos efforts, ne seront pas opérationnelles avant 2020. Donc ça nécessite de faire un programme de qualification, de vérification des performances des innovations dans la période 2021-2023, enfin 2020-2023. Voilà. On ne voit pas les investisseurs mettre quelques milliards tant qu'on n'a pas vérifié certaines performances. Et donc, on sait d'où cette phase de consolidation qui a été rajoutée. Et donc, ça fait le lien avec le dernier point qui est on a investi dans un certain nombre d'installations nouvelles où, là je me suis trompé, c'est dans ce transparent. Non, c'est ça, oui. Et puis la rénovation de Mazurka. C'est que j'ai changé l'ordre. Voilà. Donc Mazurka qui est en cours de rénovation pour la qualification neutronique du cœur CAV. On est en train, avec des partenaires, de réfléchir au montage financier pour faire une nouvelle installation d'études de comportement du corium, pas uniquement en eau vapeur, mais aussi en sodium. Et puis tout un ensemble de boucles. Donc quelques-unes sont opérationnelles. En fait, les boucles en simulant, ici, on a une vue 360 degrés échelle 1 sixième du collecteur chaud d'Astrid. Et avec les premières expériences sur le hydraulique. Ici, c'est Diademo dans lequel on est en train c'est sodium-gaz, des modules d'échange entre sodium et gaz en train de qualifier les modules d'échange. C'est en cours sur Cadarache. Et puis, la plus grosse pompe électromagnétique en Europe, qui a été construite et qui est en cours de démarrage, qui est en cours de démarrage actuellement. Et le dernier point, tout ça, c'est suivi, mais ça, je passe, c'est public, hein, ces documents-là, hein, sur l'avancement. Et puis le Grand Prix Sphène cette année qui a validé la qualité du dossier de fin d'APS. Et puis on a eu fin 2015 l'autorisation par les tutelles de rentrer en phase d'APD, Basic Design. Voilà. Nous sommes en train de préparer le post 2019 actuellement. Merci beaucoup.
Moi j'ai une question. L'inquiète, c'est que toutes les fois que le président de l'ASN s'est exprimé sur Astrid, il s'est exprimé de façon assez négative. C'est-à-dire, en gros, il disait on n'a pas de garantie sur l'inspection de service. Et tant qu'on n'aura pas de garantie sur l'inspection de service, on n'aura pas l'autorisation de faire Astrid. Donc là, je vois qu'il y a des travaux sur l'inspection de service. Donc, je ne comprends pas bien la réaction du président de l'ASN compte tenu de ce que vous avez fait sur ces problèmes d'inspection en service. Donc, je vous pose la question, où en est aujourd'hui de la relation entre les concepteurs d'Astrid, l'IRSN et l'ASN? Parce que c'est la clé. Tant qu'on n'aura pas le feu vert de l'ASN, on ne pourra rien faire.
Ouais. Alors, je m'attendais à une question, c'est pour ça que j'ai rien mis dans les transparents. En fait, l'ASN, c'est... je vais vous raconter ce qu'on est en train de faire avec eux, mais déjà, pour répondre à la question, je ne suis pas choqué par ce que dit l'ASN, parce que l'ASN n'a aucun élément de détail sur la conception d'Astrid et sur le programme de R&D d'Astrid. À ce jour... Je laisse ça, la responsabilité. Je veux dire que je ne peux pas interdire à quelqu'un de parler. Bon. Voilà. Donc, mais qu'est-ce que l'on a fait avec l'ASN aujourd'hui ?
Il y a des hauts fonctionnaires qui parlent trop.
C'est pas la question. Ce qu'on a avec eux, l'IRSN et l'ASN, depuis 2010, on a mis en place un groupe de travail. Ce groupe de travail se réunit au rythme de la disponibilité des uns et des autres. Hein, parce que l'ASN et l'IRSN ont d'autres priorités avec que Astrid aujourd'hui quand même a traité, avec le PR, etc. On a transmis en 2012 un dossier dit d'orientation de sûreté. Ce dossier, c'est une nouveauté, ça n'existe pas. Hein, même c'est avant le dossier d'option de sûreté. On a expliqué à l'ASN, on leur avait remis dès 2010 un ensemble de rapports, et de prise en compte de l'analyse du retour d'expérience de Phoenix, Super Phoenix et tout, on a écrit à l'ASN, voilà comment on l'a pris en compte à la conception et nos orientations de conception. Ça a fait l'objet d'un groupe permanent, ça a fait l'objet d'un avis de l'ASN qui est public, qui a été signé le 14 avril 2014, puisque c'était le jour du groupe permanent sur les 6 filières, dans lequel... Monsieur Niel signe qu'on a bien pris en compte le retour d'expérience, donc en tant que directeur général de l'ASN, bien pris en compte le retour d'expérience. Il nous fait une liste de demandes, c'est normal, puisqu'il n'a pas toutes les infos sur la conception, ce qui est normal. On était simplement au début de la conception. L'étape suivante, c'est de préparer un dossier d'option de sûreté. Ce dossier d'option de sûreté, en fait, on a reporté, on devait l'envoyer fin 2015 ou début 2016, mais on a décidé de le reporter après une réunion avec eux. Donc on leur a transmis un certain nombre d'informations sur les options de sûreté cette fois-ci, sur la méthodologie. Mais par contre, la partie design, on l'a reportée parce qu'ils nous ont dit, vous avez deux options sur le système de conversion d'énergie, on ne peut travailler que sur une seule, faites le choix et vous nous envoyez les éléments de conception quand vous aurez choisi. Et le choix a été reporté à fin 2017 du système de conversion d'énergie. Donc on a des réunions techniques sur des sujets de fond sur lesquels on sait qu'on a des désaccords. Comment on considère la démonstration d'élimination en pratique, par exemple. La question du risque chimique. On a quand même le circuit secondaire qui est en sodium, mais il n'est pas, à part de l'activation par sodium 24, qui décroît très vite, il n'y a pas de risque nucléaire sur le circuit secondaire. Or, aujourd'hui, on a un débat. Et ce débat, il coûtera très cher, suivant comment il est conclu. Nous, on veut le traiter comme un risque purement chimique. C'est notre proposition. L'ASN souhaiterait qu'on le traite comme si c'était du sodium primaire. Voilà. Donc on a des sujets de fond sur lesquels on travaille avec eux. Et il est important d'y travailler dès maintenant, parce que derrière, ça a des conséquences économiques très fortes. Voilà. Mais par contre, l'ASN, aujourd'hui, par ses réunions, acquiert de l'information sur nos études de R&D et de conception. On a des réunions sur les accidents graves aussi. Mais par contre, on n'a pas la vision globale et cohérente de ce que l'on fait, puisqu'on ne leur a pas encore remis le dossier. Mais on a un jalonnement, en tous les cas, avec eux.
Bonjour. Merci pour cet exposé. Toutes les technologies ont un seuil de coût minimum. Quand on choisit le concept de technologie, on choisit en quelque sorte aussi son seuil de coût. Est-ce qu'il y a une visibilité pour un réacteur commercial issu de cette filière pour pouvoir être moins cher que le charbon?
Alors c'est une très bonne question, parce qu'en plus c'est pas la même position dans les différents pays là-dessus. Mais en France, je pense que, et aujourd'hui toutes les parties, EDF, Areva, NP, NC, CEA, sont d'accord pour dire qu'un réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium sera toujours plus cher qu'un réacteur à eau pressurisée. Toujours. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question, elle n'est pas posée comme ça. La question, c'est, il y a un service, par contre, qui n'est pas le même. Un réacteur à neutrons rapides, si c'est que pour produire d'électricité, on fait des REP. C'est ça que ça veut dire. Là, c'est un service qui est sur le cycle, sur la gestion des matières. C'est de l'indépendance énergétique, en partie aussi, dont on parle, parce qu'on a des stocks en France. Ce dont je parle, c'est dans un contexte français. Dans un contexte comme la Chine, où ils n'ont pas de matière uranium au départ, et donc ils s'intéressent à la surgénération, enfin, le contexte va varier selon les pays. Mais en France, on a des stocks d'uranium importants. On a un stock de plutonium significatif aussi. Donc, dans le contexte français, on est dans une stratégie de gestion. De gestion de cette matière.
Je suis d'accord que...
Laissez-moi terminer.
...valeur que pour un REP. Mais votre erreur, c'est de comparer avec le REP. Votre
notre concurrent, c'est le charbon.
Alors, j'allais y venir. Mais je partais déjà, j'allais y venir. La question après, elle est... Et c'est pour ça, le marché de l'électricité, le marché de l'énergie, n'est pas un marché libéral en réalité. Dans aucun pays, il est libéral. En fait, et qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans les discussions, c'est est-ce qu'on met une taxe carbone ou pas, et selon comment on la définit, ça définit de nouvelles règles. C'est-à-dire que le prix du charbon peut être tellement haut que les gens vont naturellement aller faire autre chose. Dans les règles actuelles, personne n'en fait économiquement, hein, des RNR. Mais ça dépend des règles. Aujourd'hui, on a des discussions avec la DGEC. On a les ENR aujourd'hui qui se déploient parce qu'elles sont subventionnées. Donc c'est un marché qui n'est pas basé sur des règles dites libérales.
Elles ne sont pas cassées par le charbon. Hein?
Non, mais c'est ça. C'est un marché qui a ses règles, et c'est les règles actuelles. Et ces règles, elles peuvent évoluer. C'est le législateur qui décidera des règles. Et la question, elle est là. Est-ce que le service accordé par ce type de réacteur à neutrons rapides, enfin les réacteurs à neutrons rapides en général, hein, parce que là, dans ce cas-là, est-ce que apporte un bénéfice qui conduise à mettre des règles qui leur donnent une chance d'être sur le marché? C'est ça les questions. Voilà. Et en fait, et c'est dans ce cadre-là qu'il y aura la comparaison avec le charbon. Aujourd'hui, il n'y a personne qui en construit des réacteurs à neutrons rapides dans le monde. Sauf pour des raisons, disons, en Inde, quand ils en construisent, elles ne sont pas sous contrôle de l'AIE. Hein.
Dans quelque sorte, les Russes, donc, qui ont bonne avance, acceptent-ils de partager leur expérience avec la France?
Non, aujourd'hui, il n'y a pas de partage. Alors, on a des relations régulières, mais il n'y a pas de partage, je dirais, de retour d'expérience réel.
On n'a rien à partager.
Mais ils n'ont pas besoin de nous, les Russes. Donc, ils ont leur programme. Par contre, ils sont intéressés par certaines choses. Sur le réacteur, ils n'ont rien à apprendre de nous. Sur le cycle, ils ont sûrement des choses à apprendre de nous. Mais sur le réacteur, ils n'ont rien à apprendre de nous. Voilà. Donc, par contre, ils sont intéressés, on a des discussions, on a des programmes de R&D qu'on cofinance à 50-50 sur leur market critique. C'est de la R&D pour faire évoluer. Voilà. Mais il n'y a pas de relation au sens d'échange. On a pu visiter à fond BN600, on a pu avoir accès à des informations, mais voilà. On a le reste que tout le monde a dans le cadre des associations d'exploitants nucléaires.
Mais dites-moi, est-ce que le BN600 et le BN800, ce n'est pas simplement des incinérateurs de PU? Parce que moi j'ai eu l'impression, au cours d'une conférence avec les Russes l'an dernier en Indonésie, qu'ils n'enrichissaient pas, enfin, ils ne transformaient pas de l'U-238 en PU, qu'ils avaient simplement une protection acier autour du réacteur. Donc j'ai eu le sentiment qu'ils ne jouaient pas la surgénération ou la régénération.
Alors, déjà, il faut prendre peut-être un peu l'histoire de BN-800. Parce que BN-600, c'est le plus vieux réacteur en exploitation. Il a été fait dans un certain contexte. BN-800 a été arrêté au moment de la construction, avait commencé avant Tchernobyl. Donc c'est quand même un vieux réacteur, finalement, en termes de conception. Qui a été repris dans le cadre des accords START. La construction a été autorisée par les Américains dans une logique de réduire le stock de plutonium militaire. C'est pour ça que BN-800 est un projet qui est politique, qui est porté dans un certain objectif. Donc il n'a pas vocation à... Donc c'est pour ça qu'ils ont autorisé la reconstruction et qu'ils ont relancé la construction de ce réacteur. Voilà. Et ils sont en train, par contre, de tester aujourd'hui, c'est un quart de cœur de combustible de type MOX, avec des quantités de plutonium plus importantes, puisque BN-800 fonctionne avec de l'uranium enrichi uniquement. Hein, c'est du combustible UOX. Donc ils sont en train de qualifier leur production qu'ils sont en train de faire de combustible UPU O2 avec deux technologies différentes. Donc ils prévoient de passer à cette technologie-là sur BN-800, complètement, enfin à terme.
On prend encore quatre questions, donc on les fait très courtes, je n'oublie personne.
Une question très courte. Est-ce que vous avez quelques esquisses de calendrier sur la suite du déroulement du programme Astrid en termes de quand, fin de projet, quelle durée de construction, début d'exploitation. Et en gros, quand peut-on raisonnablement voir une échéance permettant d'accumuler un retour d'expérience significatif?
Alors, oui, bien sûr, on a des plannings. Alors, ces plannings, ce sont des plannings faits par le CEA avec certaines hypothèses. Ces plannings en particulier considèrent qu'on passe d'une phase à une autre, d'une phase à une autre après avoir atteint un niveau de définition ou certaines étapes. Donc ce planning, en fait, on l'a partagé avec EDF, on l'a partagé avec le Japon aussi, parce qu'on discute beaucoup avec le Japon comme partenaire de la construction. On leur a dit qu'il y a quand même, au niveau des investisseurs, il y a plusieurs optimisations possibles en termes d'analyse de risque investisseur et de tuilage de phase. Donc, en gros, on est un démarrage qui est entre deuxième partie des années 2030, aujourd'hui d'Astrid, en prenant en compte un retour d'expérience de construction en France, et puis avec les contraintes que l'on a aujourd'hui de construction, hein, qui n'existent pas dans plein de pays. Voilà, donc on est plutôt vers, on va dire, 2037-2038, un démarrage d'Astrid. Derrière, EDF considère qu'avant de se lancer dans le réacteur commercial, donc EDF lancerait assez vite les études de conception du réacteur commercial, qui serait de l'ordre de 1000 MW électriques. Par contre, avant d'enclencher, je dirais, la construction elle-même, finalement, attendrait la première visite décennale d'Astrid. Parce que Astrid est là pour qualifier certaines innovations, regarder le retour d'expérience, l'opérabilité et tout. Donc ils attendraient la première visite décennale avant de lancer le chantier de construction lui-même. Voilà.
Oui, une question,
Mais tout ça, ce sont des choses qui sont discutées, et puis voilà, c'est des ordres de grandeur.
J'ai une note sur l'opérabilité et les capacités, la prise en compte probable de l'évolution du marché d'électricité. Avec la pénétration des renouvelables variables, qui fait que, personnellement, les réacteurs auront de plus en plus besoin, que ce soit d'avoir des capacités de suivi de charge, et probablement ça sera imposé de fait, peu importe. Et donc, comment est-ce que ça s'impacte votre R&D et votre solution technique par rapport aux projets Astrid et aux suivants?
Le cahier des charges intègre, dans la conception, et donc la conception du combustible, intègre le 7SA. Alors, par contre, on considère qu'il est possible que dans la première décennie, on demande une dérogation. Voilà, ça fait partie des choses qui existent. Hein. Il y a des réacteurs qui ne font pas de suivi de charge hein, aujourd'hui, hein, il faut avoir en tête. Hein. Donc, il est possible que, voilà. Mais en tout cas, on intègre que le réacteur commercial devra le faire. Astrid est un démonstrateur technologique. Hein. Donc, Astrid aura un décret spécifique en tant que réacteur de démonstration technologique. Donc, il y a des choses dont il peut obtenir l'exonération. Mais en tous les cas, Astrid devra faire la démonstration du suivi de charge. Ouais.
Oui, brièvement. Donc, je voulais revenir sur le coût de l'électricité, sur la question posée par notre collègue. Je crois que là, actuellement, le coût de l'électricité, ça ne veut rien dire. Il est très, très bas. Actuellement, vous pouvez acheter votre électricité, toute votre électricité de 2020 sur le marché spot aux alentours de 2,5 centimes. C'est à peu près le prix actuel. Savoir que vous le payez, vous, en tant que particulier, 14 centimes. Donc, il y a un énorme écart. De ces 2,5 centimes, il faut en rajouter un pour les traders et autres, donc pour rémunérer le marché. Ensuite, vous doublez pour le transport. Et ensuite, vous avez les taxes. Et les taxes, en France, on le dit, le prix de l'électricité est très bas. Malgré tout, les taxes, c'est plus de 50%, c'est votre 60%. Vous payez la retraite des électriciens, vous le faites, même si c'est, je suis désolé pour les quelques électriciens ici, même si c'est relativement faible, vous payez les taxes communales, vous payez les taxes départementales, vous payez la CFPE, et cerise sur le gâteau, sur toutes ces taxes, vous payez la TVA. Donc il y a des taxes sur les taxes. Résultat, de quelque chose qui au départ est à 2,5 centimes, vous arrivez à 14. Voilà, donc ça veut dire qu'actuellement, rien n'est compétitif, même pas les renouvelables, même pas le charbon. Le prix est tellement bas. Le prix actuel de la REC, je crois que c'est 4,2 ou 5, quelque chose comme ça. Mais il ne faut pas faire de projection sur les prix. Actuellement, ça ne veut rien dire. Et les prix, ce sont essentiellement des taxes.
On n'est pas dans un marché.
Donc le prix, c'est pas important.
Oui, j'étais un peu surpris par le calendrier que vous avez montré parce que finalement il est assez comparable à la fusion.
Et donc ça m'amène à la question suivante. Est-ce que vous avez assez de sous? Parce que il y a donc ces 20 milliards, le budget ITER, etc. Ici vous disiez que c'était quelques milliards. Est-ce que vous pouvez être plus précis sur le budget? Et puis la question c'est, est-ce que ça a un sens de se dire, bah, finalement, compte tenu de ce qu'on a entendu derrière, etc., c'est l'urgence c'est plutôt de développer les RNR que ITER, que sur une échelle de temps un peu plus longue. Est-ce que vous avez l'argent qu'il faut à l'échelle française et à l'échelle Euratom ou pas?
Alors, je crois qu'il ne faut pas. Bon, déjà, ITER ne va pas produire l'électricité, déjà. Donc ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas les mêmes objectifs qui sont derrière. Hein. Il n'y a pas le même contexte. L'argent, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, on travaille avec EDF, en particulier, et on travaille avec le Japon, pour construire le noyau dur qui sera la société Astrid. Voilà. Donc on travaille sur ces hypothèses-là. Ce n'est pas Euratom qui financera Astrid. Hein. C'est peut-être des prêts de la Banque européenne, et on a besoin de l'Europe qui nous soutienne dans ce cas-là, des prêts de la Banque européenne pour passer à la trésorerie. Mais c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Il faut être réaliste. Ce genre de réacteur, c'est pas. Il y a tellement de propriétés intellectuelles derrière que ce n'est pas des choses qui sont ouvertes. ITER, c'est un autre modèle, parce qu'on ne sait pas si ça marche, en fait. ITER doit démontrer que ça marche, et c'est pour ça que tous les pays se rassemblent entre eux. Et se partage toute la propriété intellectuelle. Parce que si ITER ne marche pas, ben ça veut dire qu'on arrête. Donc on partage le risque. Ici, on a démontré dans le monde que cette technologie marche. Est-ce qu'elle est compétitive? C'est autre chose comme question. Mais elle marche. Voilà, c'est parce qu'on a fait Phoenix, on a fait Super Phoenix, il y a BN600, il y a BN800. Voilà, il y a FBTR. Il y a eu des réalisations. Voilà. C'est pour ça qu'on est sur des modèles complètement différents. Et pas du tout comparables. Les budgets sont comparables. Après, c'est pareil. Ça dépend quand on prend la somme telle qu'elle. Et après, il y a combien on doit dépenser par an dans l'investissement. C'est ça qui compte pour EDF. C'est combien ça me coûte dans ma trésorerie par an. C'est pour ça que je ne donne pas vraiment de chiffres parce que ça ne veut pas dire grand-chose telle qu'elle. Ça dépend après de plein d'hypothèses. On sait que c'est un programme qui va coûter quelques milliards. Voilà. Pas dizaines, non. Pas encore. Pas encore. Ça, c'est le déploiement commercial.
La question, c'était... Peut-être que tu as dit 60 ans, avec des neutrons rapides, comment vous pensez que vous pouvez l'évaluer?
C'est-à-dire, plus précisément la question.
C'est-à-dire que on dit que c'est la cuve, actuellement on l'évaluait à 30 ans, puis 40 ans, et
ah oui, oui, d'accord.
Oui. Maintenant, avec des neutrons rapides,
oui, mais ça se passe? En fait, on a, par la conception, on est quand même sur une situation très très différente. Entre le cœur ici et la cuve ici, et même ce redan qui va voir quand même quelque chose, on a tout un nombre de rangées, on a un nombre de rangées de protection neutronique. Donc en fait, on a des structures. Alors ici, c'est sur 60 ans, c'est même pas 0,1 dpa sur la cuve principale. Donc les structures auxquelles il faut faire attention, c'est le sommier et le bouchon couvercle cœur. Alors le bouchon couvercle cœur, c'est vraiment un challenge parce que il est soumis à des fluctuations thermiques importantes. On sort à température moyenne 550 degrés, mais il y a une variabilité de 20 degrés suivant les endroits, selon les assemblages. Et puis, il est soufflu, en partie. Même s'il y a une protection neutronique ici, il est soufflu. Et donc, on a prévu de pouvoir, sur Astrid, remplacer le bouchon couvercle-cœur, si besoin. On a prévu de mettre des matériaux témoins, proches justement d'irradiation, comme on fait sur les REP, hein, le programme de suivi des irradiations. On prévoit de faire un équivalent dans Astrid pour anticiper le vieillissement. Et puis, il y a le sommier. Voilà.
La dernière question.
Phoenix aussi, comme référence.
Alors, Phoenix, on n'est pas tout à fait dans la même condition, mais c'est vrai que Phoenix, on a tout un programme. C'est une bonne question et bonne remarque. En fait, bonne remarque. On a ce qu'on appelle le trésor Phoenix. C'est le nom qu'on lui donne, d'ailleurs. Et on a tout un plan de prélèvement de matériaux de structure. Mais ça va dépendre du planning de démantèlement aussi.
Pour la question de l'énergie, vous avez dit que pour la SN, vous ne deviez présenter qu'un seul dossier, soit l'eau, ouais, soit le gaz. Est-ce que d'autres projets dans le monde envisagent le gaz?
Non.
Et quel est le statut actuel de ce sujet?
Alors, en fait, c'est à la fois non et à la fois oui prospectivement. C'est-à-dire qu'il y a des gros programmes, mais qui sont à long terme, parce que la maturité est assez faible, sur le CO2 supercritique. Le CO2 supercritique peut offrir un rendement supérieur à l'eau vapeur, et ce qui fait que ça peut être intéressant. Mais par contre, le point de fonctionnement du CO2 supercritique est très proche du point critique. Donc la mise au point de la conduite est compliquée. Voilà. Donc nous, on a choisi pour le moment, pour une question de maturité, un gaz qui est l'azote. Donc, par contre, on perd énormément en rendement. C'est pour ça qu'il n'y a aucun pays qui s'y intéresse. Mais on voit chez nos partenaires, la Russie même, qui commencent à se poser des questions. Voilà. En fait, le problème du nucléaire, c'est un problème d'acceptabilité du public, en grande partie. Ce n'est pas qu'économique, c'est l'acceptabilité du public. Et ça, comment on le quantifie ? Dans certains cas, oui. Voilà. Je suis désolé.
Par exemple, carrément, elle ne fait plus comme ça.
Oui, on a regardé ça. Oui, c'est juste le